Bien, mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis heureux de vous retrouver. Ce soir, à la librairie Mola, reçoit madame Françoise Vergès pour son livre « L'homme prédateur, ce que nous enseigne l'esclavage sur notre temps ». Ce livre est publié chez Albin Michel dans la collection « La bibliothèque des idées ». Françoise Vergès, vous êtes politologue, vous avez enseigné en Grande-Bretagne ainsi qu'aux États-Unis. Actuellement, vous présidez le Comité pour la mémoire et l'histoire de l'esclavage. Je voudrais préciser qu'il ne s'agit pas, comme en France, on pourrait y penser, d'une sorte de comité Théodule. C'est un comité qui a été créé suite à l'article 4 de la loi du 21 mai 2001 et vous êtes nommé par décret. Vous avez publié des ouvrages sur l'esclavage et je recommande particulièrement à nos auditeurs le livre d'entretien que vous avez eu avec Aimé Césaire, « Nègre je suis, nègre je resterai », publié chez Albin Michel, collection itinéraire du savoir. Madame, vous êtes issue d'une famille d'acteurs politiques important, débuté par votre grand-père Raymond Vergès, poursuivi par votre père Paul. Tous deux se sont engagés contre le colonialisme et ont milité au sein du Parti communiste. Madame, je voudrais encore souligner l'importance de la seconde partie du titre de votre livre, « Ce que nous enseigne l'esclavage sur notre temps ». Vous rappelez que l'esclavage est un fait social et culturel, qu'il s'agit de comprendre. Votre livre milite pour la réintroduction de la figure de l'esclavage dans le champ politique, mais vous le reconnaissez, cette réintroduction ne fait pas consensus. Vous rappelez que la prédation est une forme de gouvernement et d'économie, que la figure de l'esclave, en fait, sa mise en servitude est la figure la plus radicale exploitation, que l'esclavage moderne est la crise des droits humains la moins connue. Aujourd'hui, à l'instar de Georgina Vascabral, la question n'est plus « a-t-il la bonne couleur pour être esclave ?» mais « est-il assez vulnérable pour être asservi ?» Nous allons voir avec vous que l'esclavage n'est pas une affaire dépassée. Pour débuter, j'aimerais que vous nous définissiez ce qu'est la traite et l'esclavage.
Merci. Tout d'abord, bonsoir et merci de m'avoir invité. Merci à la librairie, merci pour votre généreuse introduction et merci à mes amis Anne-Garde et Laure Vernière qui ont aussi co-organisé cette soirée. Alors, la traite et l'esclavage. La traite, ce qu'elle est définie dans les conventions internationales, c'est en fait le trafic d'êtres humains, de prendre des êtres humains sans leur, évidemment leur accord et de les transporter d'un endroit à l'autre de manière très organisée ou de manière moins, je veux dire, où c'est organisé de pour en fait transporter des milliers de personnes ou parfois des dizaines de personnes. Aujourd'hui, ce n'est plus les États qui le font, ce sont des réseaux mafieux très souvent. Auparavant, jusqu'au 19e siècle, ça a été des États qui organisaient les traites d'êtres humains. L'esclavage a existé de tout temps dans toutes les sociétés. Il y a de très, très rares exceptions à de très rares exceptions. Alors, on distingue l'esclavage, ce qu'on appelle l'esclavage colonial, c'est-à-dire l'esclavage qui commence au XVe siècle et qui se termine au XIXe siècle et qui est organisé par les puissances européennes pour avoir de la main-d'œuvre dans leurs colonies, dans les colonies que les puissances européennes, la plupart des puissances européennes d'Europe de l'Ouest, ont dans les Amériques, Amérique du Nord, Amérique du Sud, Caraïbes et Océan Indien. Et l'esclavage, cet esclavage colonial, en fait, qui va prendre fin avec le fait que l'esclavage va devenir illégal dans le droit international. Cet esclavage est vraiment aussi, c'est en fait la propriété d'un être, qu'un être est la propriété d'un autre, qui peut donc disposer de sa force de travail et de sa vie. Ça, c'est on pourrait dire la définition la plus générale. L'ONU donne plus récemment toute une définition, toute forme d'exploitation et toute forme de privation de liberté.
Il y a une chose qui m'a frappé, c'est que le sucre et l'esclavage sont intimement liés, avant même la création des colonies américaines.
Oui, en fait, le sucre...
C'est, pour moi, c'est une découverte.
Oui, le sucre va faire un trajet d'est en ouest. On va le rencontrer. Bon, il viendra de Nouvelle-Guinée, il va passer par l'Inde. Et on connaît au XIe siècle des plantations dans ce qui est aujourd'hui la Palestine, des plantations que les croisés avaient. Et chaque fois, le sucre, la canne à sucre, l'exploitation de la canne à sucre demande beaucoup de main-d'œuvre. Et donc, ce besoin massif en main-d'œuvre, en général, a été fourni par des esclaves. Ce n'étaient pas des esclaves noirs, nécessairement, dans ces plantations. Puis les plantations se déplacent dans les îles de la Méditerranée, Malte et puis la Sicile, par exemple, ont des plantations. Mais là, on n'est pas encore, il n'y a pas eu encore la découverte du Nouveau Monde. Quand les Européens commencent à s'installer donc, dans les Amériques et les Caraïbes, tout d'abord, ce sont les Açores et les Canaries qui vont servir de terrain expérimental pour la plantation. Et là, on va commencer. Au début, il y a ce qu'on avait des engagés, des travailleurs engagés européens, ou l'exploitation des populations natives. Les populations natives, en général, vont beaucoup mourir à cause des maladies auxquelles elles ne sont pas, contre lesquelles elles ne sont pas immunisées. Et les engagés européens, d'une part, eux aussi, ils ne sont pas immunisés contre beaucoup de maladies. Et puis ensuite, vous aviez déjà, en Europe, se développe déjà toute une contestation de travail servile. Il n'y a pratiquement plus de statut de travail servile. Donc les Européens, c'est plutôt difficile de les convaincre d'aller faire les travailleurs engagés aux colonies. Donc déjà, aux Açores et aux Canaries, on va commencer à avoir des plantations avec des travailleurs africains. Bon, les Canaries, ce n'est pas très loin du continent africain. Et en fait, pourquoi on va se tourner... Donc le sucre, finalement, se déplace et puis il va aller au Brésil. Et au Brésil, c'est d'abord les Hollandais. Et
c'est les Hollandais qui ont commencé.
C'est les Hollandais qui vont vraiment mettre en place l'organisation de la plantation telle qu'on va la connaître. C'est-à-dire une organisation très rationnelle. Avec les moulins, le camp des esclaves, les champs. C'est-à-dire, c'est très organisé. L'esclavage colonial n'est pas du tout quelque chose d'inorganisé ou d'irrationnel. Et ils vont donc développer le modèle de la plantation. Et quand ils vont être chassés par les Portugais, c'est eux qui vont transporter ce modèle dans le reste des Caraïbes. Et en fait, donc, le sucre suit ce chemin. Et avec le sucre suit le système de la plantation qui, avec... comme main-d'œuvre, une main-d'œuvre esclavagisée, qui, assez rapidement, va devenir essentiellement africaine, c'est-à-dire la source des captifs.
D'ailleurs, vous dites que les Hollandais deviennent les véritables pionniers de cette nouvelle économie de prédation.
Oui, beaucoup de forteresses, les premières forteresses établies sur la côte ouest de l'Afrique sont construites par des Hollandais. Ils avaient un capital, ils avaient accès à un capital assez facilement. Ils vont donc pouvoir rationaliser assez rapidement à la fois la traite et la mise en exploitation de ces grandes plantations. Et ils vont transporter, puis après le modèle va évidemment se développer dans les différentes colonies anglaises, espagnoles ou françaises. Et de plus en plus, donc en fait, ça va être des esclaves, les captifs du continent africain qui vont devenir la main-d'œuvre asservie dans ces plantations.
Vous pouvez un peu nous parler de l'organisation spatiale de la prédation ?
Ce que j'appelle la prédation, ce que j'ai voulu rappeler dans l'économie de la traite et de l'esclavage, c'est quand même ça repose sur le fait qu'on transforme des êtres humains en fait ce qu'on... ce qu'on appelle en français la traduction, c'est personne jetable. C'est-à-dire qu'il y a quand même toute une organisation où, en fait, on prend des gens, on les use jusqu'à... Je veux dire, le taux de mortalité... Enfin, les gens vivaient très peu. Les esclaves, il y avait une espérance de vie très, très courte qui dépend de colonie à colonie. Alors, Déjà, il faut quand même voir, quand on parle comme ça, il faut faire très attention parce que l'esclavage dure quand même 4 siècles. Et il se développe dans des colonies différentes, donc il va connaître aussi des transformations. Ce n'est pas toujours la même organisation tout le temps. Ça va connaître des différences. D'abord, d'une colonie à l'autre, ce n'est pas tout à fait le même système. Si on est avec les Espagnols, les Portugais, les Anglais ou les Français ou les Hollandais, d'une part. D'autre part, ça va dépendre aussi de ce qui est des circuits de traite. Ça va dépendre aussi de l'offre et de la demande. Ça va dépendre aussi des mouvements abolitionnistes, du poids. Ça va dépendre des insurrections des esclaves. En fait, toute une série d'éléments sont à prendre en compte quand on regarde l'esclavage. Donc, il faut faire très attention quand on dit les esclaves ou l'esclavage, parce que on doit tenir compte du fait qu'il y a une constante transformation. C'est un système très dynamique, pas du tout statique, pas du tout les négriers et les colons. Certains colons, d'ailleurs, sont très ouverts au développement technologique, d'autres beaucoup moins, se reposent entièrement sur la main-d'œuvre. Mais il faut donc faire attention à ça quand on dit la plantation ou les esclaves. Donc ça, c'est une chose. Ce que j'ai appelé par la prédation, c'est qu'effectivement, il y a la traite. La traite va instituer un système économique sur le continent africain qui est basé sur la razzia. C'est-à-dire on fait des razzias pour évidemment obtenir des captifs et qui va entraîner aussi, bon alors tout est autour du gain, du profit qui est fait et absolument rien à voir avec aucun développement économique. Il n'y a aucun développement qui se fait. Tout se fait autour, tout est organisé pour servir un objectif, la traite. Alors, ça transforme le continent africain. Ça fait, il y a des grandes routes, évidemment, parce qu'il faut quand même amener les captifs au port. Autour des ports négriers africains s'organise aussi une nouvelle économie, parce qu'il faut quand même fournir des choses pour les bateaux. Il faut aussi, par exemple, souvent les esclaves sont dans des baraquements en attendant d'être mis sur les navires négriers. Il y a des interprètes, enfin, il y a une population aussi assez cosmopolite. Donc, mais
et la population réagit aussi contre.
Et la population réagit contre.
Parce qu'elle construit des villages de oui. certaines façons pour que les cavaliers puissent pas passer.
Voilà. Oui, on a tendance à dire voilà, les Africains ont vendu leurs frères, ce qui est ridicule. C'est comme de dire, je veux dire, les Européens se sont fait la guerre pendant des siècles. Alors, si les Européens sont frères, ils se sont fait quand même la guerre. Donc là, c'était quand même des guerres entre peuples. Je veux dire, là, quand on dit les Africains, il ne faut quand même pas oublier que c'est un immense continent, que les gens parlent des langues, ont des cultures. C'est pas, ils ne parlent pas l'africain. Ils ne parlent pas une seule langue qui s'appellerait l'africain. Et effectivement, vous avez des royaumes guerriers qui. Et puis, vous avez vraiment des bandes armées qui allaient. Il y a des royaumes qui vont s'enrichir énormément autour de cette traite, mais il y a aussi des royaumes qui vont se constituer en royaumes refuge. Il y a aussi des villages dont l'architecture va changer, c'est-à-dire au lieu d'avoir des rues droites dans lesquelles les cavaliers pouvaient passer très rapidement, on va faire des rues en labyrinthe pour casser le trajet des chevaux. On va construire des villages près des forêts pour pouvoir s'enfuir rapidement. On va construire autour des villages des buissons pour qu'on ne voit pas les villages de loin. Enfin, il y a toute une série de stratégies. Il y a aussi la conversion à l'islam, puisque un musulman ne peut pas vendre à un autre musulman. Donc, vous allez avoir des conversions massives à l'islam pour justement éviter d'être acheté. Donc, il y a toute une série de stratégies aussi qui vont se développer sur le continent africain. Et ensuite, évidemment, la résistance même des captifs. C'est-à-dire tout au long du chemin vers le port négrier, les captifs s'enfuient, bien sûr, ou proposent parfois à des populations le long du chemin de les acheter pour éviter la traversée. Ensuite, vous avez des révoltes sur les bateaux et puis des révoltes dans les plantations. Donc vous avez effectivement des stratégies de résistance qui vont se développer assez rapidement sur le continent africain.
Vous avez intitulé il y a un chapitre qui s'appelle Violence et économie de la prédation. Et il y a une chose, est-ce que vous voudriez nous parler de cet état de mort sociale qui distinguerait l'esclavage des autres exploitations?
Oui, c'est un terme qu'un sociologue qui enseigne aux États-Unis, qui est d'origine caribéenne, Orlando Patterson, dans un livre qui s'appelle Slavery's Social Death, qui n'a jamais été traduit en français, d'ailleurs, qui a été publié dans les années 90, propose. Il dit que c'est tout l'esclavage, en fait, opère une mort sociale de la personne, puisque rejette l'individu hors de la société. Et en fait, quelqu'un qui n'appartient pas à la communauté libre, enfin, la communauté des êtres humains. C'est à la fois vrai, puis en même temps, c'est peut-être ce que Patterson peut-être minimise. Ça a été la capacité quand même des esclaves à réagir et à justement à ne pas devenir des morts, puisqu'ils sont restés des êtres humains. Ils sont restés comme vous et moi, c'est-à-dire ils continuent à parler, à rêver, à tomber amoureux, à être en colère. Enfin, et ils ont créé des cultures. Des cultures, bon, celles qu'on connaît le plus, c'est les cultures créoles, mais ils en ont créé beaucoup d'autres. Ils ont créé des terres libres souveraines, les Quilombo au Brésil ou ailleurs, c'est-à-dire les communautés marones. Ils ont transmis des savoirs médicaux, ils connaissaient des tas de choses. Donc, et puis surtout, ils ont contribué à l'universalité des droits de ce qu'on appelle les droits de l'homme. C'est-à-dire que n'oublions pas que le pic de la traite et de l'esclavage, c'est au 18e, au même moment où en Europe se développe la philosophie du droit naturel, les droits imprescriptibles de la personne, la liberté, et puis les notions de liberté, égalité, fraternité en France. Or, pendant ce temps-là, des millions de femmes et d'hommes sont exclus de ce principe qui était supposément universel. Et les esclaves, et notamment à travers la Révolution haïtienne, vont dire qu'il ne peut pas y avoir d'exclusion à ce principe. Et donc, c'est mon argument, c'est en fait que sans les esclaves, la philosophie des droits de l'homme, ce qu'on appelle la philosophie des droits de l'homme, ou les notions de liberté, égalité, fraternité, n'auraient pas leur dimension aussi radicale, puisque eux, ils sont poussés encore plus loin. Ce qui se disait universel, mais restait malgré tout européen, exclusivement européen. Donc, je pense, oui, c'est il y a tout ça à prendre en compte. C'est s'intéresser, et il faut aussi, quand je dis les esclaves, c'est-à-dire il faut s'intéresser aux personnes derrière.
D'ailleurs, vous dites, il y a des hommes et des femmes.
Voilà.
Et c'est la question que j'allais vous poser. C'est l'histoire. C'est d'abord, on constate un déséquilibre.
Oui.
Entre les hommes et les femmes.
Oui, le plus souvent.
Il y a même des enfants, d'ailleurs.
Oui, il y a des enfants.
Il y a des enfants. Et vous dites la disparité des sexes, la matrifocalité. Et j'aimerais bien que vous parliez de cette matière.
Alors, ça ne se passe pas dans toutes les colonies, mais dans certaines colonies, c'est vrai. Par exemple, comme aux États-Unis, la traite est abolie assez tôt. En fait, voir la traite à l'intérieur des États-Unis même. Mais je parle, par exemple, de colonies comme les colonies françaises, à Sucre notamment. De toute façon, tout l'esclavage colonial, le taux en moyenne, c'est 2/3 d'hommes pour 1/3 de femmes dans les cargaisons négrières. Donc, ce qui fait qu'il y a un déséquilibre au départ.
On a besoin d'hommes solides.
On a besoin... La canne à sucre demande des hommes costauds, des jeunes hommes. Et de toute façon, le prix le plus élevé, c'est pour des hommes entre 14, 25 ans, 30 ans. Et il y a des cas, par exemple, il y a des cas en Afrique du Sud, dans la colonie d'Afrique du Sud, où les colons renvoient les bateaux où il y a des femmes, en disant « nous ne voulons pas des femmes ». Nous n'en voulons pas. Donc, il y a des cas. La Réunion est très particulière. La Réunion, par exemple, connaîtra un énorme déséquilibre des sexes pendant jusqu'à la fin du 19e. Il y a des plantations à La Réunion où, je ne sais pas moi, pour 800 esclaves mâles, vous avez 20 à 30 esclaves femmes. Donc, des déséquilibres absolument effrayants dont on peut supposer quelles étaient les relations entre les femmes et les hommes avec un tel déséquilibre. C'est-à-dire ce qu'on a appelé la famille esclave, c'est dans certaines colonies, mais c'est pas dans toutes les colonies. Ça n'a pas lieu dans toutes les colonies sitôt. C'est beaucoup plus difficile. Et donc ce déséquilibre fait que c'est ce que des historiens vont dire pour le continent africain. Le continent africain, selon Catherine Kokrivitrovitch, est le seul continent qui ne connaîtra pas de développement démographique jusqu'au 19e siècle, le seul continent. C'est aussi un continent d'où on prend toute les jeunes hommes, donc en fait les costauds, quoi, les forces vives, et puis où il y aura des villages entiers où il ne reste que des personnes âgées, des femmes et des enfants. Donc dans des régions entières créant des déséquilibres démographiques et qui ont des impacts, bien sûr, économiques et sociaux et culturels. Donc ça, il y a toute une série de déséquilibres qu'entraîne l'esclavage. Il y a aussi un aspect que j'ai moins développé dans ce livre, mais que je trouve assez important, qui est peu considéré par les historiens de l'esclavage colonial en France, c'est l'impact environnemental. L'impact environnemental de la plantation, enfin pour certains historiens de l'environnement, le sucre va être une catastrophe environnementale. D'une part, ça demande beaucoup de bois. D'abord, il faut déboiser pour faire les champs, puis il faut beaucoup de champs. Il faut du sol fertile, donc on prend toutes les terres fertiles. Et ensuite, on a besoin de bois pour les moulins, tout ça, etc. Et donc, il y aura beaucoup de déforestation. Et ici, par exemple, Malte, qui signifie bois, connaîtra une déforestation très forte. Et en fait, cet impact, ce qu'on appelle aujourd'hui les paysages naturels dans ces îles, ou les beaux champs de canne à sucre avec les belles fleurs qui font comme ça, tout ça, c'est évidemment, ça a été fait sur le fait qu'en fait, il y a tout aujourd'hui un paysage qui est imposé, qui a été imposé par l'esclavage et dans lequel nous vivons encore aujourd'hui. Ce n'est pas un paysage qu'on ne vous verrez que sur les aquarelles d'antan. Si on va dans toutes ces îles à sucre, on les voit encore. Ce sont des paysages qui sont... Et puis l'organisation même de ces terres sont organisées autour de la production de sucre. C'est-à-dire là où étaient les villes, là où sont les ports, là où passaient les routes... Tout est fait, tout a été construit, donc c'est un paysage urbain, on pourrait dire, dont nous non pas seulement naturel, mais urbain, dont nous avons hérité. Et qui, les plantations étaient là où sont les plantations, avec les villages autour. Et donc, en fait, un paysage d'aujourd'hui, dans lequel on circule aujourd'hui, qui est en fait hérité, que nous avons hérité de ces époques, oui, de ces... Donc, il y a aussi tous ces aspects, il y a Donc l'impact démographique, l'impact économique, bien sûr, l'impact environnemental, l'impact culturel, le fait, comme vous rappeliez, que l'esclavage colonial est africanisé, donc le glissement qui va s'opérer entre noirs et esclaves. Et comme on rappelle, dans les dictionnaires de langue française, beaucoup d'historiens le soulignent, noirs et esclaves vont devenir des synonymes au début du XVIIIe siècle dans les dictionnaires de langue, pas simplement dans le vocabulaire familier. Et donc tout un racisme anti-noir qui va déjà s'élever autour du fait que finalement, vous comprenez, quand on allait dans ces colonies, qu'est-ce qu'on voyait ? On voyait des champs avec des milliers de noirs qui travaillaient et... un chiffre beaucoup moins de blancs libres. Et donc, l'équivalence entre blanc et liberté et noir et servilité se fait. Les ratios, c'était à peu près 80% d'esclaves pour 20% de libres. C'est ce que dit Marcel d'Origny. Vous avez, par exemple, à Saint-Domingue, qui est devenu Haïti, au moment de l'insurrection, vous avez plus de 500 000 esclaves pour 30 000 libres de couleur et 30 000 blancs. Enfin, ce qu'on appelait les blancs. Donc, vous voyez un peu l'incroyable écart qu'il y a. Et donc, évidemment, avec des écarts pareils, il fallait maintenir une terreur absolue parce que ce sont aussi des systèmes qui sont régis par la peur. Parce que quand même, on a peur de tous ces hommes. Qui peuvent constamment se révolter. Et on a parlé les colonies, c'est une chaîne d'insurrection. Quand il y a une insurrection qui s'arrête là, il y en a une autre là. Si ce n'est pas des empoisonnements, c'est des feux qui sont mis, du sabotage. C'est une constante, quand on lit beaucoup de journaux de colons, c'est une constante peur, inquiétude, angoisse. Et les nouvelles circulaient très, très vite. Et les esclaves ont constamment, d'une colonie à l'autre, il y a constamment des insurrections. Donc il y a une peur constante. Et du coup, il faut évidemment imposer aussi la terreur. Et beaucoup, donc chaque fois qu'il y a insurrection, s'il y a, je ne sais pas moi, pour 10 blancs tués, il faut qu'il y en ait 3 fois plus d'esclaves, je dis un chiffre comme ça, punis, et punis de manière publique, avec les têtes qu'on laisse à la vue de tous pendant longtemps, ou les carcans, ou les tortures en public, on les tue en public, pour que justement ça fasse exemple. Et donc on est aussi dans des régimes de terreur, et qui vont, pour moi, avec la prédation. C'est-à-dire que ce sont des régimes économiques qui sont antidémocratiques par nature, donc qui vont contaminer les démocraties, qui vont faire que, du coup, les démocraties européennes vont toujours avoir un côté où elles ne peuvent pas appliquer vraiment leurs principes. Ce sont des régimes culturels et en plus racialisés, puisqu'il faut faire, il faut expliquer pourquoi il y a tant de gens qui sont de couleur et qui sont asservis.
Chapitre qui s'appelle la ligne de couleur. Vous verrez, il y a un chapitre très 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 important sur la ligne de couleur, où l'idéologie de la suprématie, je vous cite, raciale infiltre toutes les couches de la société coloniale et contamine la conscience de groupes qui se découvrent grâce à elle blancs et accèdent ainsi à quelques privilèges, quel que soit leur statut social.
Oui, certains historiens préfèrent le terme de préjugé de couleur, mais moi je trouve que ligne de couleur, c'est tout à fait parlant. C'est tout à fait parlant, et je pense que oui, ça traverse l'histoire de la citoyenneté, ça traverse l'histoire de la liberté, ça traverse l'histoire. Quand j'ai signalé que ça avait contaminé la démocratie, c'est que je parlais même de mouvements progressistes qui émergent même après l'abolition de l'esclavage, comme le mouvement féministe français.
Oui, vous parlez du blanchiment.
Oui,
on en parlera peut-être tout à l'heure.
Oui, même ça, où finalement, et aux États-Unis, c'est un cas aussi encore plus fort, hein, c'est-à-dire après la guerre de sécession, il va y avoir une rupture entre les Noirs américains et le mouvement féministe américain. Sur cette base, c'est parce que pour les féministes, on ne peut pas donner tous ces droits aux hommes noirs et ne pas leur donner.
Parlez-en,
oui.
Puisque vous avez abordé vous appelez le blanchiment.
La question, en 1848, bon, alors ça c'est pour la France, en 1848, deuxième abolition de l'esclavage, finale définitive. Le droit de, les hommes, tout le monde devient citoyen, mais les hommes ont le droit de vote, bon, comme tous les hommes à l'époque, enfin comme tous les hommes.
Pas les femmes.
Oui, pas les femmes. Donc, ils ont ça, et Hubertine, je cite le cas d'Hubertine Auclair, qui était une très grande féministe, une grande républicaine, qui s'est opposée à Napoléon III, qui avait énormément de courage, qui voulait le droit de vote, qui était contre la peine de mort, qui vraiment se fera persécuter par le régime, et qui pourtant écrit, dans les années 1850, un texte qui s'appelle « Les femmes blanches sont des nègres ». Et où elle dit, mais comment avez-vous pu donner le droit de vote à des Noirs qui sont barbares et qui ne sont pas civilisés, et vous ne l'avez pas donné aux femmes blanches qui, elles, sont civilisées. Et donc, au lieu de réclamer le droit de vote pour tous, sans ligne de couleur, sans distinction, ce qu'elle intègre pour justifier le fait qu'il faudrait donner d'abord aux femmes blanches, c'est un argument raciste. Ces hommes ne sont pas éduqués, ces hommes donc ne vont pas apporter un plus à la démocratie. Par contre, nous, femmes blanches, et les femmes blanches seraient éduquées par nature, seraient plus démocrates par nature, par leur blancheur. Pas par du tout, elles, par l'éducation ou par quelque chose de plus. Non, par... Et ça, c'est des choses que j'ai retrouvées même encore plus tard, dans des mouvements encore plus tard, dans les années 20-30, jusqu'à très tard, ce que j'appelle la contamination de mouvements progressistes et démocratiques par cette ligne de couleur. C'est-à-dire que d'accord la liberté, d'accord l'égalité, d'accord la fraternité, mais enfin, pas trop, encore un peu là. Donc, fraternité, oui, mais on sera les grands frères, vous serez les petits frères. Égalité, bon, vous avez encore des efforts à faire. Liberté, oui, mais si on vous donne trop de liberté, est-ce que vous saurez quoi en faire? Et toute la question, d'ailleurs, de l'abolition était très souvent, mais est-ce qu'on peut leur donner la liberté tout de suite? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce que ces gens sauront quoi faire de la liberté? Est-ce qu'ils ne vont pas en abuser? Et ça, c'est un très, très gros argument.
Un leitmotiv.
Un leitmotiv, et qui est... Donc, c'est pour ça, si vous voulez, pour souvent, des historiens relient la question... d'un racisme anti-noir avec la colonisation post-esclavagiste, pour moi, elle est déjà là dans le système esclavagiste. Et puis il y a des tas de textes qu'on peut retrouver, des tas de textes de loi ou des textes de littéraires ou des textes. Il y a aussi des textes qui veulent expliquer la psychologie, la nature médicale des Noirs, bien avant le 19e siècle. Là, on est au 18e. Et qui sont des textes racistes.
Pas très clairs. Hein,
oui, pas très clairs. Bon, il y a des philosophes des Lumières qui vont réfléchir sérieusement. Moi, il y a une phrase de l'abbé Raynal que je trouve très belle, parce qu'il dit qu'en fait, l'esclavage colonial, c'est la principale cause qui agite maintenant l'univers. Et donc, C'est cette espèce de force invisible qui tient l'économie qui est en place et le système. Et je trouve que c'est très bien vu, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une matière invisible, parce qu'on ne veut pas la rendre visible. Et c'est assez important, parce qu'en fait, vous avez peu de représentations de l'esclavage dans l'art et dans la littérature française. Vous en avez, mais on pourrait les citer, mais quand on voit l'importance que ça a eu, le rôle central que ça a joué, ce n'est quand même pas au centre de la littérature ni des arts.
Arrive 1848 et on n'applique pas les textes partout et c'est pas général, hein.
Ben les textes, c'est-à-dire qu'on applique le décret d'abolition de l'esclavage. Encore, bon, on a des cas, évidemment, bon, en Martinique, les esclaves ne veulent pas attendre, donc ils disent, voilà, c'est fini, ils imposent l'abolition. À l'île de la Réunion, le commissaire de la République, quand il arrive, les colons lui disent, est-ce que vous pourriez attendre la fin de la coupe des cannes? Il dit d'accord, parce qu'on aura encore besoin des esclaves. Donc, on va le faire on va le faire en décembre. Mais c'est surtout que se met en place, mais ça c'est dans les colonies anglaises et dans les autres, vont se mettre en place, sous la pression des colons, toute une série de mesures qui vont empêcher en fait que les affranchis fassent ce qu'ils veulent. Tout ce qu'ils veulent. Il faut les réintégrer dans le système de travail, un travail qui les assigne à résidence. Ce qu'on ne veut pas, c'est le vagabondage, qui était déjà aussi très interdit en France. On ne veut pas de force de travail qui se balade comme ça, on veut fixer. Et donc, il y a toute une série de mesures qui vont être prises qui font qu'ils ont besoin d'avoir un carnet de travail. S'ils ne l'ont pas et qu'on les arrête, ils sont condamnés au vagabondage et on les condamne à des travaux forcés. Et toute une partie de l'infrastructure des colonies françaises sera construite. Pour les Anglais, dans les colonies anglaises, c'est à peu près la même chose. Ils imposent ce qu'ils appellent le fait que les esclaves doivent être des apprentis pendant toute une série d'années pour les anciens maîtres. Donc, de toute façon, les lobbies coloniaux ont beaucoup plus de poids même que le poids qu'ils avaient à l'époque, parce qu'en 1848 ou 1833 pour les Anglais, toute cette deuxième partie du 19e siècle, très rapidement, vous avez l'industrialisation en Europe et une nouvelle forme de colonisation qui s'installe. Et vous avez aussi l'émergence du sucre de betterave, tout ça, on a moins besoin du sucre colonial. Mais le lobby colonial restera suffisamment fort pour imposer non seulement de recevoir une compensation financière pour la perte de leur propriété privée, de leurs meubles, les esclaves, des tarifs douaniers préférentiels pour leur sucre colonial, qui provoquera d'ailleurs des protestations des betteraviers en France ou même en Angleterre aussi, etc. Parce que quand même, pourquoi ? Et ensuite, le fait qu'ils obtiendront la possibilité d'organiser l'immigration de nouveaux travailleurs, qui ne sont plus des esclaves, ce qu'on appelle les travailleurs engagés, de l'Inde et de la Chine, qui iront travailler dans toutes les colonies anglaises et françaises. Ce qu'on voit si vous voyagez à l'île Maurice aujourd'hui, tous les Indous, vous voyez, ou quand vous allez aux îles, même jusqu'aux îles Fidji ou dans d'autres colonies. Et donc, c'est un lobby sucrier qui est quand même un lobby qui est le premier lobby et qui est un lobby qui sera un lobby avec un très fort pouvoir et qui continue à avoir un fort pouvoir. Donc c'est des organisations, il y a des organisations qui sont héritées de l'esclavage colonial, qui sont devenues, qui font partie de notre monde, auquel on ne fait pas tellement attention, mais qui sont en fait, qui ont une longue histoire, qui ont une très longue histoire. Mais de la même façon, on oublie à quel point le sucre a révolutionné le monde, pas simplement évidemment par la traite et l'esclavage, mais par le fait que déjà les manières de vivre en Europe. D'abord, je sais pas, le sucre sera aussi pendant tout un temps un signe de statut. Alors, par exemple, en 1515, un cardinal Wolsey, c'était un cardinal anglais qui est investi à Westminster, il fait faire toute une série de sculptures énormes en sucre pour montrer sa richesse et son statut. Donc, il y a des châteaux, il y a un jeu d'échecs, il y a des chevaux, il y a des oiseaux en sucre. On ne mange pas, hein, c'est juste pour montrer. Voilà. Et la reine Élisabeth Ier, qui aimait beaucoup les douceurs, d'ailleurs, en 1591 aussi, organise un immense banquet sucré. et défile devant elle des animaux, des châteaux, tout ça en sucre. Et tout ça a été préparé. Et d'ailleurs, il y avait des livres de cuisine au XVIIe qui montraient comment faire des décorations en sucre. Donc, vous décoriez votre table avec des choses en sucre, comme on met des fleurs aujourd'hui. Et donc, mais en même temps, très rapidement, de nouvelles normes de civilité émergent en Europe, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qu'être un homme de bien, une femme de bien. Et beaucoup de choses vont se passer autour du café. Café, le thé et la pâtisserie, tout ça. Et donc, le sucre. Et donc aussi des arts de la table qui vont se développer, des arts de civilité. Donc on oublie à quel point les cafés. Le premier café s'ouvre à Londres en 1652. Et quelques années plus tard, à la fin du 7e, vous avez déjà un café pour 1000 londoniens. Donc le café comme lieu social aussi, comme lieu de débat, comme lieu de discussion. Évidemment aussi en France, enfin le café qu'on connaît. Donc on a vraiment la consommation de sucre. En Angleterre, par exemple, en 1670, il y a 1 kilo par personne. Et en 1770, 10 kilos par personne de sucre. Donc des consommations énormes qui changent aussi la vie quotidienne. Et pour certains historiens, d'ailleurs, le sucre, a permis la pacification de la classe ouvrière. Parce que, ben voilà, ça lui a donné l'énergie, tout ça, etc. Et ça lui a fait oublier sur quoi ça reposait, tout ça. Et que finalement, bon... Et donc, on a tout ça. Et aussi, une autre chose, j'ai parlé des luttes des esclaves qui ont révolutionné le monde, notamment la révolution haïtienne qui secoue, mais même les formes de lutte contre l'esclavage en Europe, notamment en Angleterre, vont être des formes totalement nouvelles dont nous avons aussi hérité. Par exemple, le boycott, le premier grand boycott de l'histoire, et qui va devenir donc une arme qu'on connaît aujourd'hui, est lancé par les femmes anglaises pour qu'on boycotte le sucre. Et elles vont aller de porte à porte pour expliquer ne consommez pas de sucre, parce que voilà, etc. Et donc, elles vont lancer un boycott qui va avoir en fait de l'écho. Donc, on est...
Ce qui est un tour de force pour l'époque.
Et puis aussi les pétitions. Les Anglais vont... C'est des pétitions, à un moment donné, pratiquement toute la ville de Manchester va signer une pétition contre l'esclavage. Donc, c'est des formes qu'on connaît aujourd'hui. Et aussi l'image... L'iconographie abolitionniste est une iconographie extrêmement puissante. On connaît les bateaux négriers, là, le fameux bateau où on voit les noirs des uns côté des autres. Donc, c'est une image très forte. C'est aussi toute l'image des gens enchaînés, des esclaves torturés, et qui vont multiplier. C'était des gens extrêmement modernes dans leur manière de faire de la propagande, et qui font par des milliers de tracts, on pourrait dire, qu'ils distribuent, et qui vont vraiment... C'est aussi la publication de témoignages, d'autobiographies par des anciens esclaves. On connaît celle de Olado Equiano, qui va lui-même partir dans toute l'Angleterre, porter, faire son propre témoignage. Donc, des mouvements politiques extrêmement modernes dans leur pratique, dans leur manière d'utiliser les nouveaux outils avec l'imprimerie, tout ça, et qui est le premier grand mouvement humanitaire, on peut dire, avec les formes qu'on connaît aujourd'hui. Boycott, pétition, image, tract, signature de choses, etc. Donc, pour moi, si vous voulez, ce que je trouve, c'est que c'est en fait un événement extrêmement moderne et pas du tout arriéré, enfin, qu'on renvoie. Et c'est cette modernité qui, je pense, est très importante pour nous.
Il y a une chose qu'il faut que vous expliquiez. Il y a Frantz Fanon qui dit « Je ne suis pas esclave de l'esclavage ». Est-ce que vous pouvez nous éclairer là-dessus ?
Oui, François.
Ça, c'est... Apparemment, c'est ambigu.
Oui.
En train de dire, c'est quand même curieux. Mais je crois qu'il vous est nécessaire que vous nous éclairiez là-dessus.
Oui, c'est dans Peau noire, masque blanc. Alors, on sait que Frantz Fanon, il est martiniquais, il a grandi en Martinique, donc il avait certainement des ancêtres esclaves. Mais c'est surtout, il rejoint les forces françaises libres, il va lutter en France participer à l'offensive contre le nazisme des troupes qui arrivent par le sud. Et quand il écrit ce livre en 1952, il voulait le présenter comme sa thèse de psychiatrie, il est à Lyon. Il a rencontré le racisme en Afrique du Nord, quand il était basé là. Et puis, après la guerre, il veut retourner en Martinique, il fait la campagne avec Aimé Césaire. Aimé Césaire faisait la campagne pour la fin du statut colonial. Et puis, bon, il n'aime pas trop, il n'a pas envie de rester en Martinique, il revient en France. Et là, il découvre de nouveau le racisme. Et dans Peau Noire, Masque Blanc, il y a ce fameux chapitre qui commence par... Il est dans un bus et il y a un enfant qui crie, une petite fille qui crie « Maman, maman, un nègre, j'ai peur. Maman, maman, un noir, j'ai peur. » Et donc, il est là et il dit « Mais comment je suis... » Lui, il est là à ses affaires, on peut dire. Et de nouveau, il est entièrement déterminé par la couleur de sa peau. Et c'est cette détermination par les autres qu'il enferme, qu'il refuse. Et en disant « je ne suis pas esclave de l'esclavage », qui déshumanise à mes pères, c'est que ce n'est pas à moi non plus seulement de porter cette histoire. C'est l'Europe qui doit en grande partie porter cette histoire, puisque c'est quand même l'Europe qui a fait cela, qui a organisé cela. Et donc c'est déjà à elle de touiller dans toute cette affaire, et non pas de me rendre, moi, ce n'est pas à moi de porter le fardeau pour elle. Et de me rendre que moi, je devrais donc porter cette mémoire, porter ce souvenir, et ce serait moi donc transformé en victime à tout jamais, et qui porterait cette voie de victimisation. Il le refuse. Il refuse ça parce qu'il refuse de se laisser enfermer dans une détermination qui, en fait, a été entièrement construite par l'autre. Et autour de ça, donc, il ne veut pas porter cette histoire là comme quelque chose, c'est pas à lui de porter ce fardeau. Lui, il dit je ne veux pas être esclave de l'esclavage, je veux être un homme parmi les hommes. Et je ne veux pas donc être celle la victime que le système voudrait faire, c'est-à-dire cette définition par l'esclavagisme de l'autre, de la personne noire. Ce que aussi certains historiens aujourd'hui disent en disant on ne peut, l'histoire de l'esclavage n'est pas que l'histoire de la déportation, de la souffrance, c'est aussi l'histoire des femmes et des hommes qui ont résisté, qui ont continué à vivre, qui sont nés esclaves, ils ne sont pas tous été transportés, et qui ne peuvent pas être réduits à ce que l'esclavagisme en a voulu faire. Donc on aime très souvent citer l'article du Code noir qui dit « ce sont des meubles ». Et on dit, voilà, déshumanisation, tout ça. Mais d'une certaine manière, on perpétue le vocabulaire esclavagiste, parce que ça, c'est l'esclavagiste qui dit que ce sont des meubles et qui en fait des meubles dans ses trucs d'héritage. Mais la personne ne se vit pas comme un meuble. Personne ne se vit comme un meuble. Et même le propriétaire d'esclaves savait bien que ce n'était pas un meuble. On ne frappe pas un meuble. On ne lui donne pas des ordres. On n'a pas peur d'un meuble. Alors que là, ils avaient peur de l'esclave. Ils lui donnaient des ordres, ils lui parlaient. Enfin, donc, de toute façon, c'est une formule juridique, certes, mais dans laquelle il ne faut pas non plus nous enfermer. Ou, par exemple, très souvent, de réduire l'esclavage à la question des chaînes. D'abord, les esclaves n'étaient pas constamment enchaînés. Et puis, vous avez beaucoup de statuts d'esclaves. Tous les esclaves ne sont pas ce qu'on appelle des esclaves de pioche dans les champs. Il y a des commandeurs, il y a des esclaves domestiques, il y a des gens qui seront d'ailleurs... Il y a des femmes qui deviendront les maîtresses qui seront libres, ou des hommes esclaves à qui le maître donnera la liberté. Certains apprendront à lire et à écrire. Certains seront ce qu'on appelait des nègres à talent, c'est-à-dire qui connaissaient le fonctionnement des machines et tout ça. C'était des cordonniers. Enfin, la société avait besoin de toute une série de choses. Et Fanon, donc, lui, refuse ça. En même temps, si vous voulez, moi, je pense, je fais mienne l'interprétation aussi qu'en a faite Glissant de cette phrase de Fanon. Édouard Glissant disait « L'esclave de l'esclavage est celui qui ne veut pas savoir. » Donc, parce que Fanon dit aussi ailleurs « Plonger dans l'abîme du passé, dans le gouffre du passé est condition et source de liberté. » Donc, pour lui, c'est la question de la liberté à trouver, et non pas du fardeau de la victimisation à porter. Donc c'est comme ça que je comprends « je ne suis pas esclave de l'esclavage », qui est souvent, évidemment, parfois adopté pour dire « bon, maintenant, assez avec tout ça ».
Pour terminer, vous prétendez que l'esclavagisme est une formule dévoyée. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ça ? Pourquoi c'est une formule dévoyée ?
Ce que je veux dire par là, c'est que Il y a plusieurs choses. D'une part, quand l'esclavage est devenu illégal, parce que l'esclavage colonial était légal, mais toutes les autres formes d'esclavage auparavant aussi l'avaient été, on peut dire. Et puis là, il devient vraiment, il est de plus en plus perçu comme crime, même dans le droit international. Et de toute façon, il n'y a aucun pays, la Mauritanie c'était le dernier, aucun pays ne connaît l'esclavage. Mais du coup, on a voulu penser qu'un terme avait été, un terme avait, entier avait été mis à des formes de travail servile, à toute forme de travail servile. Et du coup, la résurgence de formes de travail servile est perçue constamment comme une forme d'arriération. Il n'y a que des arriérés qui peuvent faire ça, il n'y a que des gens barbares. Et on ne comprend pas que c'est au centre d'économies extrêmement modernes, c'est-à-dire les nôtres, pas celles de, je sais pas, de paysans perdus dans les fins fonds de je ne sais où. Elle est là absolument au centre de notre vie et de notre économie. Donc ça, c'est une première chose. Et il est vrai aussi que l'esclavage reste une notion extrêmement puissante qui continue à résonner pour les êtres humains, qui trouvent, en parlant, en disant « je ne suis pas esclave » ou en disant « nous avons des conditions d'esclave », ce qu'on lit très souvent dans les journaux encore aujourd'hui, même si ça n'a pas été des gens. Donc, si vous voulez, si on en reste à l'histoire du transport par bateau négrier et dans la plantation, on ne comprend pas non plus. Ce moment a été singulier, ce moment de l'esclavage colonial, mais son illégalité, sa fin dans le droit et le fait qu'il devienne illégal, n'a pas signifié sa fin dans le système économique et social dans lequel nous vivons. Et donc des résurgences extrêmement fortes. Et donc pour moi, si vous voulez, en écrivant ce livre, ce que je voulais qu'on pose comme question, c'est justement pourquoi ça se maintient malgré l'illégalité. Et bien que nous avons des technologies extrêmement développées aujourd'hui, que nous vivons dans un monde incroyablement développé technologiquement, incroyablement.
J'aimerais que vous concluiez là-dessus. Mais avant, je voulais vous demander, dans votre livre, vous recommandez la création d'un mémorial et centre de ressources consacré aux traites et aux esclavages. Voilà. Est-ce que vous pourriez nous éclairer sur ce projet que vous avez ? Un, comment est-ce que vous comptez y arriver ? Et deux, comment voulez-vous mobiliser les gens pour qu'ils vous suivent dans ce projet ?
Alors, ce centre, nous l'avions demandé dès 2005 au Comité pour la mémoire de l'esclavage. C'est tout à fait, si vous voulez, il y a énormément de choses qui se sont faites quand on voit, l'an dernier, on fêtait les 10 ans de la loi, et on dit, bon, alors, qu'est-ce qui s'est fait ? Alors, je sais qu'il y a des gens qui disent, rien ne s'est fait. C'est pas vrai. D'énormes progrès. Il y a évidemment, des salles qui ont été ouvertes au château des Ducs de Bretagne. Il y a évidemment les salles qui ont été ouvertes au musée d'Aquitaine en 2009. D'ailleurs, nous étions là à l'inauguration et ce directeur est là. Et il y a ça. Il va y avoir des à La Rochelle, il va y avoir à Lorient. Il y a de plus en plus d'expositions, il y a de plus en plus d'ouvrages. Par exemple, pour les thèses, le comité remet un prix de thèse. En 2002, on avait une thèse. En 2004 aussi une. Bon, donc la personne a eu le prix. Et l'an dernier, nous en avions 10. Donc, en 10 ans, un incroyable progrès avec des thématiques très nouvelles aujourd'hui. Par exemple, beaucoup sur le droit, alors que le droit a été très négligé dans l'étude de l'esclavage en France. Le droit de l'esclavage, c'est-à-dire, on s'est concentré sur le code noir, on n'a pas fait attention. Il y a plus de 600 textes de loi sur la question de l'esclavage en France, sans compter toutes les jurisprudences dans chacune des colonies. Donc, c'est vraiment, on en a des études. Comment les choses sont passées, comment on a légiféré, comment on a... Et aussi des thèses aujourd'hui sur des micro-histoires. Enfin, c'est donc des choses très nouvelles. Vous avez ça, vous avez un centre de recherche international qui est rattaché au CNRS, le CIRESC. Vous avez dans les manuels scolaires et dans les programmes scolaires la présence de cette histoire. Donc d'énormes progrès. Pour les programmes et les textes scolaires, les livres scolaires, ce que Sandrine Lemaire, qui est une historienne spécialiste de ces choses, signale, c'est que c'est enseigné de manière à ce qu'il y ait une telle césure qu'on n'arrive pas à comprendre quel est le lien avec l'histoire d'aujourd'hui. Donc, ce qui fait que même encore aujourd'hui, vous avez par exemple des jeunes Martiniquais qui ne comprennent pas qu'ils sont liés à cette histoire. Il y a eu quelque chose à un moment, mais c'est peu. Bon. Donc, une espèce de confusion qui est à ce sujet. Donc, ça, c'est une première chose. La deuxième chose, moi, ce qui m'a frappée, c'est qu'en France, les questions sur les histoires coloniales, la longue histoire de la colonisation, esclavage, est portée par les jeunes. C'est pas, même dans les îles anciennement esclavagistes, c'est pas les personnes âgées qui portent tellement cette question. ce sont les jeunes. Parce que les jeunes, aujourd'hui, avec tous les développements des choses, se disent « Mais pourquoi je subis des discriminations alors que je suis complètement français ?» Et du coup, s'intéressent à ce qui expliquerait cela. Et donc, souvent, le racisme, alors bon, ben, pourquoi il y a du racisme anti-noir ou pourquoi il y a du racisme on tire le fil. Et ça, c'est très lié avec la perception de qu'est-ce que c'est qu'être citoyen aujourd'hui, citoyen. Il y a ça, il y a aussi la nécessité très claire, je pense, aujourd'hui, de renouveler ce que Benjamin Sora dit, un nouveau récit républicain, qui intègre ces histoires sans les marginaliser, en montrant comment elles ont été au cœur de la fabrication de la société française, telle que nous la connaissons. Ce n'est pas une histoire là-bas, ça ne concerne pas les ultramarins ou je ne sais pas qui. C'est au cœur de la France, c'est au cœur de l'histoire de la société française. Et donc cet aspect qui n'est pas un aspect simplement dans les musées ou dans la recherche universitaire ou dans les livres scolaires, qui est plutôt autour de ce qu'on pourrait appeler de l'éducation civique, je pense doit être pris en charge par un centre. Où justement, n'importe qui, on n'a pas besoin d'avoir un intérêt particulier pour cette histoire, mais par curiosité, parce qu'on en a entendu parler, parce qu'on veut comprendre, et on vient. Et on trouvera des informations sur les routes de traite, etc. C'est-à-dire la mission n'est pas les missions de musée ou de centre de recherche, mais vraiment les questions que tout un chacun peut se poser, et autour de débats. Et je pense aussi, pour moi, ce ne doit pas être des lieux de culpabilité, ou des lieux d'écrasement, mon Dieu, c'était terrible, etc. Ou des lieux où je sortirais en disant « Ah, c'était vraiment horrible, vraiment ces gens-là, ils sont horribles, heureusement qu'on est sortis de là. » Mais qui seraient des lieux qui me permettent de réfléchir en tant aujourd'hui que citoyen responsable, à quoi dois-je faire attention autour de moi, parce que qu'est-ce qui repose aujourd'hui sur du travail servile dont je bénéficie sans le savoir, mais de la même manière qu'après tout, le sucre arrivé sur ma table, je voulais peut-être pas trop savoir comment il était arrivé là. Et qu'est-ce qui aujourd'hui, de quoi je bénéficie, quels sont les privilèges, le confort de ma vie qui s'appuie sur du travail servile? Pas pour dire, ah mon Dieu, etc., mais pour justement essayer de comprendre comment changer ces choses-là. Je veux aussi qu'on valorise l'énorme courage qu'il a fallu à ces gens pour mettre fin au système colonial, esclavagiste, que ce soit les esclaves ou les abolitionnistes. Les abolitionnistes européens, beaucoup ont été traînés dans la boue, diffamés. Ils n'étaient pas du tout, inquiétés à tout moment. Ça n'a pas été une histoire juste glorieuse. Et les esclaves, ils ont payé de leur vie. Beaucoup, beaucoup ont payé de leur vie. Donc c'est aussi pour montrer que, si vous voulez, il y a dans cette histoire des leçons de courage moral et donc d'une morale civique. Pas du tout d'une morale, pas moralisant, mais justement d'une éthique de la solidarité. Qu'est-ce que ça signifie de vivre ensemble ? Et pour revenir à la question que vous posiez, si aujourd'hui il y a, selon les Nations Unies, 27 millions d'esclaves dans le monde, donc
27 millions
de femmes, d'enfants et d'hommes asservis, et ce n'est pas dans des pays reculés de je ne sais où, c'est aussi en Europe, ici, aux États-Unis, au Canada et ailleurs, donc dans les pays développés. Et qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi a-t-on encore besoin? Quelle est la place du travail servile dans notre économie? Quelle est la place du travail servile dans l'humanité? Pourquoi il y a un espace toujours pour du travail servile? Quand je dis travail servile, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus des bateaux qui entraînent des gens, mais il y a des personnes qui travaillent, qui sont privées de tout droit, qui sont...
Le travail des enfants.
Le travail des enfants, qui sont absolument exploités, dont la vie ne compte pas. C'est-à-dire qu'ils peuvent mourir, etc. Ça n'a pas d'importance. C'est ce qu'on appelle donc les personnes jetables en économie, dans un certain discours économique. C'est-à-dire leur développement, leur santé, leur vie ne compte pas. Ça n'a pas d'importance qu'ils réalisent leur vie, comme on dit aujourd'hui, réaliser sa vie. Ils travaillent et puis c'est tout. Et puis bon, pas d'école pour les enfants. Pas d'école pour les enfants. Donc, ces personnes serviles produisent aujourd'hui, c'est pas des petites choses, c'est des choses qui sont dans nos vies. Pour nos portables, pour nos ordinateurs, pour nos iPads, nos Facebook, etc. Donc c'est le monde, de nouveau, comme disait Reina, la principale cause qui agite maintenant l'univers, ça reste quand même une espèce de présence. Et pour moi, si vous voulez, de donner des visages et des voix à ces anonymes et à ces vies invisibles est extrêmement important parce que, justement, la perpétuation s'appuie sur rendre ces vies invisibles. C'est un peu opaque, c'est loin. Et puis aussi, ce que j'appelle le consentement, c'est-à-dire qu'on... Ouais, peut-être, mais enfin, c'est compliqué. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire? Et puis, si je fais quelque chose... parce que n'oublions pas que les esclavagistes avaient des arguments économiques qui étaient très, très, comment dire, très pertinents. Quand ils disaient, mais vous allez arrêter ça, mais ça, l'économie va s'effondrer, c'était un argument tout à fait pertinent. Est-ce que, et qu'on fait quoi, nous? Je veux dire, vous voulez du sucre, il faut que ça bosse, il faut que tant de gens, qu'est-ce que vous voulez? Sinon, le prix du sucre, il va monter. C'est ça que vous voulez, etc. Donc, ils avaient, au-delà des arguments racistes, etc., il y avait aussi des arguments économiques. Et d'ailleurs, il y avait des batailles entre Adam Smith, qui était, lui, pour le travail salarié, parce qu'il trouvait que c'était mieux, etc. Enfin, donc, il y avait des débats. Et puis en fait finalement on le sait, et ça d'ailleurs les musées, le musée d'Aquitaine comme celui de Nantes le montrent, c'était des économies qui s'appuyaient sur tout l'arrière-pays. Donc il y avait plein de choses qui étaient, plein de réseaux qui étaient mis en place. Je veux dire, un bateau négrier, ça partait pas comme ça. Il fallait qu'il y ait des choses, du vin, du blé. D'ailleurs, il fallait le construire déjà, tout ça. Bon, bref. Donc on est vraiment pour moi, c'est de faire comprendre tout ça. Et un centre de ressources et de documentation est un centre qui serait ouvert donc à tous pour ces échanges. Je dois préciser que depuis que j'ai écrit ça, je suis allée encore plus loin. Parce que, je vais expliquer très rapidement pourquoi, l'an dernier, c'était l'année de l'Outre-mer. Et il y a eu une manifestation qui a été prévue dans le cadre de cette année au Jardin d'acclimatation à Paris, qui a été une manifestation culturelle. Il y a eu une protestation par des Amérindiens de Guyane en disant « Mais comment pouvez-vous faire une manifestation culturelle dans un endroit où nos ancêtres ont été exposés et certains sont morts ?» En 1898, je crois. Certains étaient morts, exposés, comme vous connaissez ce qu'on appelle les os humains, quoi. Enfin, la formule. Donc, protestation, controverse, voilà. Le ministère de l'Outre-mer ne veut pas retirer la manifestation prévue. Et d'ailleurs, d'autres Amérindiens disent « Oui, d'accord, faisons-la quand même ». Mais on me demande de voir quelle serait la réponse. Donc, j'organise des auditions, je rencontre des Amérindiens, tout ça. Ce que je veux dire par là, c'est que ce qui m'a frappé à ce moment-là, c'est qu'en fait, il y a encore aujourd'hui, enfin, il y a aujourd'hui une gestion des mémoires coloniales qui est une gestion un peu comme les expositions coloniales. C'est-à-dire, il y a le pavillon Martinique avec sa vanille et son café, le pavillon Réunion avec sa vanille et je ne sais pas quoi, là-bas, la doudou et les acras, là-bas, je ne sais pas quoi. Mais... en quoi ces histoires se rejoignent ou conversent entre elles ou interagissent est très peu vu. Et donc, ça entraîne inévitablement une rivalité entre les mémoires. Parce que celui-là, s'il a une stèle, attendez, mais il a une stèle et moi alors? Donc, la France se couvre de stèles, en général pas très belles, et des monuments en général pas très beaux, et qui n'ont pas d'impact civique. Je veux dire, les gens passent devant en deux jours, c'est oublié. Personne ne lit ce qui est écrit sur les stèles ou les monuments, sauf l'association qui s'est battue et qui, une fois par an, vient. Donc, la dimension d'éducation civique et de solidarité citoyenne que je préférerais installer signifie qu'il faut, au contraire, faire l'effort de croiser tout cela et de voir comment les choses se répondent. Comment, finalement, si quelque chose qui va se passer là va avoir aussi un impact là. Et qui n'est pas donc une accusation d'un groupe contre l'autre, mais de montrer comment toutes ces histoires sont inévitablement imbriquées. Inévitablement imbriquées. La France s'est lancée dans cette histoire de la colonisation pendant des siècles. Elle a donc jeté à travers le monde des colons, des esclaves, des travailleurs engagés, des migrants. Elle a rencontré des peuples autochtones. Après, elle a fermé le chapitre colonisation un soir de 1962. Bon, mais d'abord, elle continue à avoir des territoires à travers le monde, dans le Pacifique, dans les Caraïbes, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud et dans l'océan Indien, qui font partie quand même de la République. Et je dis toujours que la carte de la France est une carte totalement mutilée, parce que c'est l'Hexagone et puis avec la Corse, parce que sinon les Corses, ils sont trop mécontents. Mais le reste... Or, ces gens font partie de la République française. Bon, ça, c'est déjà une question. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'une fois qu'on avait soi-disant fermé ce chapitre, il y a quand même des gens qui, par héritage familial ou par histoire, etc., sont liés à cette histoire et qui sont vivants. C'est pas des, je ne suis pas en train de parler des archives du XVIIe.
Des actes de souvenirs.
Ils sont là. Ils ont été impactés par la guerre en Indochine, la guerre à Madagascar, au Cameroun, en Afrique du Nord, les répressions ici et là, les histoires, etc. Et c'est la France, c'est l'histoire de la France. Et donc, l'effort, je pense, aujourd'hui, c'est de repenser ce qu'a été l'histoire de la société française en réintégrant comment ça a impacté. À la fois, je le disais, puisqu'on sait que l'esclavage a impacté le droit, la philosophie, les arts, etc., mais aussi après l'histoire coloniale, et aujourd'hui, dans son présent. C'est pas une histoire... Les historiens chercheront, continueront. La recherche est absolument fondamentale, parce que sans la recherche, on ne peut pas comprendre tout ça. Mais il y a un lieu d'éducation civique fondamental aujourd'hui, et quand je dis que c'est la jeunesse qui porte, c'est aussi une source depuis 10, 12 ans. Ce qui est frappant, c'est une source d'inspiration très forte pour les artistes. La longue histoire de la colonisation. Artistes, danse, théâtre, photographie, et puis toutes les musiques, hip-hop, rap, etc. C'est absolument frappant. Et je pense que ça a à voir justement avec cet effort de comprendre ce qui s'est passé pour comprendre qui on est aujourd'hui. Et donc, il y a besoin d'avoir un lieu pour apaiser aussi tout cela, pour en terminer avec cette rivalité qui a été induite, pour pas nécessairement par complot, hein, mais bon, de fait par une gestion un peu sans comprendre très bien les enjeux. Et je pense qu'on est en 2012 et qu'il est temps que la société française passe un peu à autre chose et ne se réinvente pas comme un endroit qui n'aurait rien eu à voir avec tout ça. Parce que de toute façon, c'est là. Hein. Personne partira. Hein. Personne ne sera chassé. Hein. C'est ainsi.
Madame, je vous remercie infiniment.